Le bulletin du handicap. Bonjour à vous tous, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce jeudi 17 décembre 2015. Plusieurs parents d'élèves autistes obligés de se battre en cours. Ex-éco exige le maintien intégral des services de réadaptation à Lucie Bruno. L'espoir d'un traitement contre le nanisme. Une personne handicapée en France poursuit le président de la SNCF pour mise en danger de la vie d'autrui. Et Stéphane Bierloas, nommé entraîneur et de l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant du Canada. Même s'il est tout fin seul dans son combat juridique contre la commission scolaire de la capitale, Michel Labonté sait que plusieurs autres parents d'enfants autistes ont été obligés comme lui de se battre pour avoir accès à des services. Selon ses calculs, au moins 13 autres jeunes autistes étaient dans la même situation que son fils en 2012 et attendent d'avoir une place en classe spécialisée à la commission scolaire de la capitale. Selon la requête déposée en cours, M. Labonté prétend qu'il aura fallu 3 ans d'acharnement avant que son garçon puisse avoir accès à la classe Le Petit Prince, spécialisée en autisme. M. Labonté veut dire à la communauté autistique qu'il y a moyen de se défendre et qu'il faut le faire. Il publiera aujourd'hui ses astuces pour faire reconnaître ses droits devant une commission scolaire dans un nouveau site web dédié, tedalecole.org. tedalecole.org. Dans sa poursuite de 600 000 $ M. Labonté reproche à la commission scolaire de la négligence grossière, de même que des supercheries et des mensonges. La requête parle d'une discrimination systémique des enfants handicapés au sein de la commission scolaire de la capitale. Un constat que partage Jean-François Roberge, porte-parole de la coalition Avenir Québec en matière d'éducation, mais à l'échelle de la province. Il dit « J'ai rencontré plusieurs parents d'autistes qui étaient exaspérés, à bout de souffle. Ce n'est pas normal de se battre contre un monstre bureaucratique. La machine est au service de la machine et on oublie l'élève. » Joanne Lauzon, directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme, aborde dans le même sens. Le taux de prévalence de l'autisme augmente, mais au Québec, on est dans une ère de coupure, alors c'est sûr que ça ne balance pas, exprime-t-elle. Au Canada, l'autisme toucherait un enfant sur 94. En se basant sur le cas de Benjamin, 11 ans, de la Montérégie, la FQA a lancé une pétition cet automne pour qu'on cesse d'expulser les autistes des écoles. Madame Lauzon raconte, dans le cas de Benjamin, on a suspendu sans date de retour et on lui offrait à la place 1 heure de scolarisation par jour à la maison. Mais les parents se sont battus et il va maintenant dans une nouvelle école et tout va bien depuis septembre. Selon elle, près d'une centaine d'enfants autistes sont présentement dans cette situation, obligés d'être scolarisés à la maison. Une situation déplorable, ajoute-t-elle, parce que plusieurs enfants autistes ont un énorme potentiel. C'est un texte de Patricia Cloutier dans le journal Le Soleil. À la suite d'un appel à la mobilisation du comité des usagers du centre de réadaptation Lucie Bruno, Ex-éco participe à une conférence de presse afin de dénoncer le déménagement des services de réadaptation. L'organisme montréalais réclame la suspension des démarches entamées visant à déménager les services du CRLB à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay, ainsi qu'un engagement formel de la direction du CIUS du Centre-Sud afin de réaliser une étude complète sur les impacts socio-économiques d'un déménagement de services. En septembre dernier, la direction des programmes DITSA-DP du CIUS du Centre-Sud a annoncé au comité des usagers que certains services allaient être transférés à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay, situé dans l'ouest de la ville. La conférence de presse est issue d'une collaboration entre le comité des usagers du CRLB, le regroupement des organismes de promotion et Ex-éco avec l'appui de Québec solidaire. Ex-éco écrit « Dans une optique d'un meilleur accès aux services de santé et de services sociaux, il est indispensable d'assurer un service de proximité à la population de l'est de l'île. De plus, comme les deux centres de réadaptation sont regroupés dans le même CIUS, il est possible d'améliorer le continuum de services sans pour autant déménager ceux-ci. L'organisme plaide pour que pour plusieurs usagers, Lucie Bruno est plus qu'un centre de réadaptation, mais bien un lieu de socialisation où certains viennent briser l'isolement. Pour les membres, l'annonce de la perte de service au CRLB est inquiétante. Plus de la moitié des membres d'Exéco habitent la couronne est de l'île de Montréal. Bien que le CRLB fasse maintenant partie du CIUS du Centre-Sud, il est le seul centre de réadaptation situé à l'est. Rappelons que le CIUS de l'est est le plus fréquenté de toute l'île de Montréal. Chez les membres d'Exéco et les usagers du CRLB, l'indignation est palpable. Colère, pleurs, découragement et sentiment d'impuissance face à des décisions de la direction prises sans les avoir consultés ou même avertis. Les usagers craignent non seulement de voir les listes d'attente s'allonger, puisque l'achalandage est déjà élevé à l'IRGLM, mais aussi de perdre leurs intervenants suite à une réduction d'effectifs sur le terrain en raison d'un éventuel déménagement. La corde sensible reste sans équivoque la perte de proximité et l'accès au centre de réadaptation. Les membres d'Exéco résidant dans l'est de la ville et fréquentant Lucie Bruno s'insurgent devant le fait qu'ils devront, pour la plupart, faire 2 heures de plus de transport adapté afin de se rendre à l'IRGLM. Les personnes en situation de handicap ont souvent une moins grande résistance aux turbulences occasionnées par le transport et se fatiguent plus rapidement de rappeler Exéco. Une molécule testée par un laboratoire américain a permis à des enfants de grandir plus vite malgré leur maladie. Une taille très en dessous de la moyenne, 1,31 m pour les hommes, 1,24 pour les femmes, des jambes courtes, un tronc long et étroit, une grande tête au front bombé. Les caractéristiques physiques de l'encodroplasie, la forme la plus courante de nanisme, sont connues car cette condition est assez répandue. Elle concerne un enfant pour 25 000 naissances. Voilà qu'aucun traitement n'existait à ce jour sur le marché. La seule option envisagée parfois pour ces personnes pour gagner en taille était une chirurgie d'allongement des jambes, un processus très long et douloureux. Ce type d'intervention est donc très rarement pratiqué. Mais la découverte il y a une vingtaine d'années de la mutation génétique responsable de cette forme de nanisme a ouvert la voie à des recherches médicamenteuses qui viennent donner des premiers résultats très encourageants sur l'homme. La molécule testée, la vosoritide, a été mise au point par la société américaine BioMarin. Elle a été proposée à 26 enfants âgés de 5 à 14 ans dans 14 pays. Selon les résultats rapportés dans un communiqué de presse en juin et à l'occasion d'un congrès médical international aux États-Unis en octobre, le traitement par injection quotidienne a permis chez les enfants traités avec les plus fortes doses une augmentation de la croissance de 50% par rapport aux 6 mois ayant précédé l'essai. Cela a complètement modifié la courbe de croissance de ces enfants, se réjouit Laurence Leguet-Mallet, directrice de la recherche ayant supervisé les effets cliniques sur la vosoritide en France et co-découvreuse du gène défectueux FGFR3. C'est la première fois qu'on montre que quelque chose est possible pour eux, poursuit-elle, tout en restant prudent, 6 mois, c'est court. En France, le président du directoire de la SNCF, Guillaume Pépi, doit comparaître le 31 mai prochain en citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui. Le 22 septembre dernier, un usager handicapé est tombé sur la quai de la gare Montparnasse en tentant de monter dans son train. Il pointe du doigt un service non adapté. Alexandre Nitsanga, qui souffre d'une maladie orpheline, l'obligeant à se déplacer constamment avec des béquilles, achète le 19 septembre un billet avec service spécial Accès Plus en charge des personnes handicapées auprès de l'agence SNCF de Paris. L'usager se présente la journée à 13h15 à la gare Montparnasse pour prendre son train. Un employé se présente alors devant Alexandre avec une chaise roulante, mais pour une fois devant la porte du train, l'assistant se rend compte qu'il a oublié le chariot élévateur. Faute de temps, Alexandre accepte de modifier son billet pour prendre le train suivant. Mais pour le train suivant de 16h40, même scénario, un deuxième employé s'est présenté sans chariot élévateur. Nouvelle modification de billet, cette fois l'employé qui termine son service note qu'il faut un chariot élévateur. Peine perdue. Devant le troisième train, le nouvel assistant se présente une nouvelle fois sans chariot élévateur. Dans l'obligation de partir, Alexandre est alors contraint de monter dans le train, ce qui engendre sa chute. Alexandre, via son avocat, a signé en citation directe le président de la SNCF. Pour mise en danger de la vie d'autrui, c'est une faute qui a entraîné des dommages sur mon client, de dire l'avocat, mais plus encore, cette affaire pose la question de l'accessibilité des personnes handicapées de la SNCF. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se donne rendez-vous en janvier prochain.